c'est de nous dire que va de nouveau surgir une tentative de messianité selon Joseph, mais qui va s'opposer à la messianité selon Judas. Et alors, nous avons le récit de la Passion, je ne dirais pas le mythe, mais vous voyez de qu'est-ce qu'il est raconté. Il est raconté de nouveau l'histoire d'Israël, mais pas à la manière des Juifs fidèles aux Hébreux, selon la Bible des Hébreux, c'est-à-dire le Pentateuque qui raconte cette histoire dans l'histoire telle qu'elle s'est passée dans les commencements. Mais dans la tentative d'une messianité de Joseph qui irait jusqu'au bout, et alors que Joseph n'est pas devenu égyptien, les judéo-chrétiens deviendront romains. Et ce n'est pas par hasard que la première église universelle s'appelle l'église catholique, apostolique et romaine. C'est Joseph devenu égyptien. Et bien entendu, il faudrait reprendre tous ces termes exégétiques dans le détail à la loupe. Et bien entendu que c'est faisable, puisque c'est écrit pour ça. Mais voilà ce qui surgit de cette cohérence du rédacteur de Matthieu. Vous comprenez, la première fois, c'est l'histoire. Et Jacob engendra Judas et ses frères. La deuxième fois, c'est le mythe. Il nous faut un Jacob qui engendre un Joseph pour être le mari terrestre symbolique de la matrice qui engendrera cette identité du véritable hébreu selon la conscience chrétienne qui va abandonner l'identité juive pour devenir l'universel salvateur au niveau de la conscience chrétienne. C'est l'assassinat de l'identité juive qui est raconté dans cette histoire. Et vous comprenez que les Juifs ne sont pas laissés faire. Alors Judas, c'est le traître. Alors on nous raconte une histoire où il y a de nouveau 12 apôtres, puisqu'il y avait 12 enfants de Jacob, et où l'antagoniste du fils de Joseph s'appelle comme par hasard un certain Judas. J'espère avoir suffisamment montré par ce tout petit exemple quelle est la typologie qui est derrière ce récit. C'est la perception d'une mutation messianique où on demande au peuple juif d'être Isaac sacrifié, mais il se laisse parfaire parce qu'il est hébreu. Voilà, je crois que c'est l'essentiel de ce qu'il fallait comprendre. Alors, je vous citerai simplement deux citations de ce livre pour montrer bien pourquoi j'en ai été tellement secoué. La première, je l'ai marquée, je ne sais pas si la deuxième est marquée, mais je l'ai retrouvée. Première citation. Je vais demander à René Girard de me payer l'oculiste. Non, c'est arrangé. Voilà, page 180. Dans l'Ancien Testament tout entier, un travail exégétique s'effectue en sens contraire du dynamisme mythologique et culturel habituel, c'est-à-dire des mythes païens. Ça, c'est l'hommage aux Hébreux. Okay. On ne peut pas dire toutefois que ce travail parvient à son achèvement. Même dans les textes les plus avancés, comme le quatrième chant du serviteur, dans les prophètes, dans Isaïe, une ambiguïté subsiste en ce qui concerne le rôle de Yahvé, enfin ce qu'il appelle Yahvé. Si la communauté humaine, à plusieurs reprises, nous est présentée comme responsable de la mort de la victime, à d'autres moments, Dieu lui-même est présenté comme le principal auteur de la persécution. Et l'ambiguïté qui apparaît, je vous ai lu Jérémie. Voilà ce que je vais vous lire. « Je crois possible de montrer, dit René Girard, que seuls les textes évangéliques achèvent ce que l'Ancien Testament laisse inachevé, c'est-à-dire la Shoah. » Ces textes se situeraient donc dans le prolongement de la Bible judaïque. Ils constitueraient la forme parfaite d'une entreprise que la Bible judaïque n'a pas menée jusqu'à son terme, ainsi que la tradition chrétienne l'a toujours affirmé. La vérité de tout ceci apparaît grâce à la lecture par la victime émissaire, et elle apparaît sous une forme immédiatement vérifiable sur les textes eux-mêmes, mais sous une forme jusqu'ici insoupçonnée et surprenante pour toutes les traditions, y compris la tradition chrétienne, qui n'a jamais reconnu l'importance cruciale, il fallait le dire, sous le rapport anthropologique de ce que j'appelle la victime émissaire. Et enfin, j'espère avoir suffisamment montré de quoi il s'agit dans cette idée fausse que le récit de la crucifixion serait le passage à la limite réussi de ce qui n'est qu'ébauché dans le sacrifice d'Isaac. Tout est faux, et dans le postulat et dans la conclusion, c'est la projection de la conscience romaine sur ce qu'était la conscience juive de l'époque. Maintenant, qu'en est-il à l'échelle individuelle du problème de l'amitié entre juifs et chrétiens? Je crois que c'est un tout autre problème. Je crois qu'à un niveau humaniste, cette amitié des personnes, chacun compte tenu de sa propre foi, peut se réaliser, mais c'est un problème d'humanisme. Ce n'est pas du tout un problème de rencontre théologique, parce que c'est incompatible. Parce que c'est incompatible. Parce qu'il y aura toujours cette tentation de demander au peuple juif d'être quand même ce qui est raconté dans cette histoire de la Passion, parce que c'est ça que la Passion raconte, le récit de la Passion raconte. Et s'il ne veut pas, de lui en vouloir, et de lui en vouloir avec rancœur, parce qu'à cause de lui, le Messie ne vient pas, parce qu'à cause de lui, quel Messie? Ce Messie des Évangiles, rien à voir avec la Bible hébraïque. Bon, je crois que j'ai dit l'essentiel, vous avez la parole. Quelle heure est-il ? 10h30 ? Oui ? Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, le personnage qui nous est montré dans le récit évangélique, ce serait le Messie, fils de Joseph, lui-même étant le fils de David. Je pense que c'est clair. C'est ce qui éclaire la grande difficulté des exégètes chrétiens eux-mêmes pour rendre compte de la contradiction des lignées et des généalogies par les tribus. Voilà. Je crois que c'est cela qui a voulu être dit. Nous allons entreprendre la tentative d'un Messie de Joseph, mais qui sera lui-même le fils de David. Voilà, ce que je voulais dire ce soir, c'est ceci. Ce récit ne nous gênerait pas. Après tout, ce serait le midrash de la conscience chrétienne, pourquoi pas? Mais il est dans son intimité même anti-juif. Et lorsqu'on parle de l'antisémitisme chrétien, c'est pas seulement l'antisémitisme sociologique des communautés chrétiennes. Ça peut être ramené à un phénomène sociologique. C'est que le récit de la Passion est pas seulement dans les accusations contre les pharisiens, dans les accusations sociologiques contre la société juive, dans ce qu'elle dit dans sa foi, le récit de la Passion est antijuif. Ça veut dire il n'y a que si le peuple juif accepte de se laisser crucifier que le monde est sauvé. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qui a été fait sur le peuple juif. Oui. Parlez un peu plus fort. Écoutez, j'entends bien, j'ai dit, je pense suffisamment, tout au début en introduction, que mon propos n'était pas du tout de mettre en question la conscience chrétienne comme elle s'aménage en elle-même après 2000 ans. Et je dis bien après 2000 ans, à travers 2000 ans. Et c'est un temps culturel énorme. Mais mon propos était d'éclairer la conscience juive de cette erreur qui consisterait à admettre d'entendre, continuer à répéter par exemple, là, dans ce livre, que le récit de la crucifixion, c'est la réussite de l'approximation qu'il y avait dans le récit du sacrifice d'Isaac. C'est ça que j'ai voulu essayer de faire entendre. J'entends bien qu'il faudra beaucoup de temps pour intégrer tout cela. Ça. Et je ne voudrais pas que mon propos mette en question la pureté de bonne foi de ce en quoi un chrétien croire. Pas du tout. C'est son problème. Mais mon propos est de dénoncer le mythe de la crucifixion. Je vais ajouter une phrase qui ouvre un autre paragraphe. En tant qu'il est, que cette croix est mise sur les Juifs et que ces Juifs sont mis sur cette croix. Alors vous allez me dire, mais ce n'est pas les chrétiens qui font ça. Non, non, mais voilà ce qui est dit dans cette croyance. Et le monde fait ça. On ne peut plus dire aujourd'hui que le monde ne le fait pas, il le fait. Attendez, laissez-moi finir de répondre à votre première question. Vous savez, la conscience chrétienne est rassurée de l'immanence de Dieu au monde par le fait qu'il a donné son Fils au monde. Et elle le formule à sa manière en disant « Dieu s'est fait homme et à travers cet homme, Dieu se faisant homme, Dieu le Fils, comme vous dites aussi, il souffre de la souffrance des hommes, etc. » Mais voilà quelle est la formule officielle. Dieu s'est fait homme. Mais en réalité, en quoi le chrétien croit ? Que Dieu s'est fait juif. Et c'est tout autre chose. Et ça devient tout autre chose. Et alors là, il faut reprendre la Bible et savoir qu'est-ce que ça veut dire cela. Que selon l'ordre de la conscience chrétienne, Dieu aurait choisi dans la conscience chrétienne, nous ne croyons pas en cela, qu'aurait choisi de se faire juif pour pouvoir souffrir la souffrance des hommes. D'où procède une telle énormité. Et il y a deux choses là-dedans. En tant que juif, moi je discute cela, que Dieu ait besoin de se faire homme pour souffrir la souffrance des hommes. C'est du paganisme, ça. Dieu est Dieu. Et il souffre de la souffrance des hommes, il n'a pas besoin de cette magie-là. Mais d'autre part, en tant que juif, je suis obligé de dénoncer l'antisémitisme de la formule. Parce qu'en réalité, le chrétien croit que Dieu s'est fait juif, pas que Dieu s'est fait homme seulement. Bon, eh bien voilà, vous comprenez, ce sont ces filières-là qu'il faut avoir le courage un peu de réfléchir. Alors, je vous dis, rassurez-vous, nos maîtres depuis les siècles nous ont dit, en ce qui concerne la bonne foi de la conscience chrétienne contemporaine de tous les siècles, avon avotam yedem. Les chrétiens contemporains ne sont pas responsables de la crucifixion du peuple juif. Ils ont eu l'erreur de la foi de leur père entre leurs mains. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, j'en veux pas du tout à un chrétien contemporain de croire en ce en quoi il croit. Premièrement, en tant que rabbin, je dois alerter les juifs de comprendre de quoi il s'agit. Et deuxièmement, je dois inviter mon frère chrétien de commencer à ouvrir les yeux sur l'histoire et de comprendre qu'il y a un lien dans les faits, dans la réalité, entre ce qui est raconté dans ce récit et dans ce qu'est l'histoire réelle des juifs en monde chrétien en particulier. Vous allez me dire, mais il n'y a pas que l'antisémitisme chrétien, c'est vrai. L'antisémitisme a apparu avec Abraham, bien que ce soit un anachronisme dans le mot. Dès qu'il y a Abraham, il y a un anti-juif contre lui. Okay? Mais c'est le christianisme qui a légalisé théologiquement cette histoire que le monde, comme a eu le courage de le dire ce chrétien hétérodoxe, que le monde persécute les juifs pour évacuer l'agressivité naturelle de la violence humaine et qu'il en a fait son Dieu victime expiatoire. Mais qui a légalisé cela? La théologie chrétienne? Pas l'égyptienne? Pas la persane? Pas la grecque? Pas... Voilà. Alors, parce que maintenant, de nouveau, le peuple juif a ressuscité de l'assassinat de la génération précédente et qu'il est de nouveau, encore une fois, en but à l'hostilité universelle, je crois que c'est un devoir pour tous, ces juifs et chrétiens, d'ouvrir les yeux sur ce qui s'est passé il y a 2000 ans, comme c'est raconté dans vos livres. Je ne discute pas, madame, votre foi actuelle. Je vous dis, essayons de fermer les yeux et de se réveiller à 2000 ans. Je vous dis de quel midrash procèdent les catégories dites en gréco-romain dans le récit des évangiles. Vous savez, les chrétiens ont dit très souvent qu'il fallait qu'ils aident les juifs à lire l'Ancien Testament. Alors, c'est pas du tout ironique de ma part, mais je crois qu'il faut peut-être découvrir que la vérité, c'est tout à fait le contraire, qu'il faut que les juifs commencent à aider les chrétiens à lire le Nouveau Testament pour le débarrasser de son antisémitisme originel. Je crois d'une foi parfaite qu'après cette ascèse d'épurement, le chrétien peut garder l'essentiel de l'intégrité de sa foi de bonne foi en se débarrassant de cet antisémitisme-là. Je le crois. Et en tant que théologien juif, entre guillemets, je suis prêt, ça fait 10 fois que je le répète depuis 30 ans, je suis prêt à collaborer, à aider tel ou tel théologien chrétien qui le voudrait à étudier ce problème dans le fond, pour aider l'Église et les Églises à avoir enfin une théologie positive du judaïsme et non plus une théologie négative du judaïsme. Et à se débarrasser de ces ombres ténébreuses que je suis en train de décrire. J'ai dit peu de choses, vous savez, ce soir. Mais de ces ombres, là, de telle sorte de garder sa foi de chrétien, mais épurée de tous ces de toutes ces choses infernales. Parce que nous avons le pressentiment de ce que quelqu'un qui n'est pas né d'Israël croit dans la mesure où il espère être sauvé du salut d'Israël. Ça, nous pouvons comprendre. Mais pourquoi rester encore dans ce danger ? Il y a des aveux de la société chrétienne qui n'ont pas été encore faits. Bien, je vous demanderai vraiment instamment que vos questions soient sur le sujet. Et je précise, je n'ai pas du tout le propos ce soir d'entamer un dialogue théologique judéo-chrétien. Il ne s'agit pas de ça. Hein. Il s'agit d'un sujet très précis, d'un point très précis. Dans quelle mesure le récit de la crucifixion serait le passage à la limite des réussis du récit de la servie d'Isaac ? Ma réponse est non, du début jusqu'à la fin. Oui,
soit les numéros 5, 6, 7, 8, 9. Égide coupable, rend hommage aux chrétiens pour leur compréhension, pour l'aide et l'humanité, mais toujours dans un climat de remerciement des défenses. Et ce jour-là, 1959, dans cette photo, il y a eu un numéro qui s'appelait Les Chrétiens. Un article s'appelait Les Chrétiens. Dans les textes, la première fois, un juif qui s'appelait Léon Asselin, et qui fait un article dans lequel il citait en particulier un verset de la Torah de Marie, du Saint Livre de Moïse, le chapitre 32, le verset 21. Hem, qui nous nie, velo ei, qui a suni, le hable, ani, a qui aime, velo am, le goy, la roche, a ceux m'ont jalousé, traduisait-il, de façon également apparemment nouvelle, ce texte que juifs et chrétiens lisent depuis que la Bible a été écrite. Eux m'ont jalousé avec un vain Dieu. C'est la Torah qui l'écrit. La parole française ne serait pas dessus. Ils m'ont excité, ils m'ont mis en colère de Rabléel avec leur vanité. Invisibilité. Et moi, je vais les rendre jaloux avec un pape-peuple. Je vais les mettre en colère avec un peuple. Et dans un autre passage, je cite encore de mémoire, de cet article, Léon Ashkenazi avait le courage de dire aux chrétiens, d'écrire ce document de Pierre, prendre sur soi le Shabbat et les mitzvot est une croix trop lourde à porter.
Bien.
Bien, nous remercions M. Léon Ashkenazi pour cette vision juive des évangiles et nous vous donnons rendez-vous à demain. Merci.
Intégré dans la première comparaison, je voudrais simplement en profiter pour terminer ce sujet puisqu'on l'a abordé, c'est-à-dire la définition de l'identité de Bilal. Mais seulement, rappelez-moi, ce qui était au séminaire l'année dernière, je ne pense pas celui de décembre, mais avant, est-ce que nous n'avons pas étudié une fois une camarade en Baba Batra, Moshe, Katav, Sifro, Parashat Bilal, Bessiverio,
Kev?
Ah, c'est en décembre même.
Ah, non, pas en décembre.
Top, l'homme chané. Mais, parce que ça me revenait en mémoire. Donc là, vous avez eu une partie de cette analyse, je suppose. Oui ? Sur Bilam. Okay. Bon, alors je vais donc la reprendre.
Les trois sagesses.
C'est ça, les trois sagesses. Bon, mais je laisserai Job et Jethro de côté, simplement pour caractériser Bilam par rapport à notre problème. Et je vous rappelle la référence, je vais me baser sur l'enseignement du Maharal, dans le chapitre 5 de Pirkei Avot, Mishnah 19. Et nous allons voir ça, évidemment. Justement, avant cela, en particulier pour ceux qui étaient là hier soir, je voudrais que nous étudions un verset dans Isaïe qui est relié d'une certaine manière au problème de la Hakeda. Je vais vous expliquer comment, et auquel j'ai pensé, mais je ne voulais pas intervenir à ce moment-là. À la suite d'une question d'une dame chrétienne, vous vous rappelez, elle était à peu près sur la gauche là-bas.
Oui.
Et ça m'a beaucoup frappé. Vous vous rappelez quel était le thème? C'est que. Je reprends la formule, je vous l'avais citée d'ailleurs hier, c'est que dans la croyance chrétienne, qui est finalement que le sacrifice d'Isaac va se réaliser vraiment dans la crucifixion, enfin vous vous rappelez de ces ch'touillotes là, intervient cette formule que cette dame avait dit, que la croyance chrétienne fondamentalement, c'est qu'il fallait que Dieu se fasse homme pour pouvoir connaître la souffrance des hommes. Vous vous rappelez de cela?
Oui.
Bon, elle est tombée dans le piège.
Oui.
Et alors, là, j'ai voulu premièrement m'excuser, préciser ceci, c'est qu'au fond, en réalité, il ne croit pas, Stam, que Dieu s'est fait homme. Et puis, ensuite, on reprendra la fin, hein, pour pouvoir souffrir la souffrance des hommes. Il croit que Dieu s'est fait juif. Oui.
Est-ce que vous comprenez bien l'irruption de l'antisémitisme a priori dans ce problème? Est-ce que c'est bien clair?
Oui.
Alors j'avais répondu que c'était de la conscience magique, enfin du paganisme absolu, que Dieu est Dieu et n'a pas besoin de se faire homme pour savoir ce qui se passe dans son monde. Est-ce que c'est clair? Alors je voudrais vous citer un verset à ce sujet, c'est dans Isaïe. Et je vais vous dire tout de suite pourquoi j'ai choisi ce verset. C'est dans Isaïe, chapitre 63, verset 9. Parce qu'il y a dans notre texte de la Haggadah d'Itsrak le fait qu'au moment même où l'épreuve risque de devenir plus qu'une épreuve, c'est-à-dire cette catastrophe de la mise à mort de la victime, alors Malach Hashem, un ange de Hashem, intervient. C'est clair. Vous voyez quel est le verset dans la Haggadah d'Itsrak. Bien. Je vous avoue que je n'ai pas eu le temps de vérifier qui est exactement cet ange dans le Midrash, mais enfin, on pourra trouver ça dans les sources. Mais voilà le verset que je veux vous signaler. C'est un verset que nous citons à la prière tous les matins. Vous l'avez retrouvé? Oui.
Bechol tzaratam lo tzar umalach panav oshiam be'ahavato premlato hugealam vainatelem vainaseem kol yemei olam.
Je vous mets au tableau l'expression qui est importante pour le sujet. Bechol tzaratam lo tzar. C'est écrit lo avec aleph. Il y a ici un cricktiv. Tout le monde sait ce que c'est qu'un cricktiv? Bon, je vais expliquer. Lorsque un mot est écrit d'une certaine manière dans le texte et lu d'une autre manière, on dit qu'il y a un cricktiv. Cricktiv. Je ne mets pas le dagesh à cause du yud, mais je vais le mettre quand même. Kéri, ça veut dire il faut lire d'une autre manière que c'est écrit. Alors, Ktiv, Lamed Aleph, avec Aleph, ça veut dire Bechol Tzaratam, en toutes leurs tzarot, c'est intraduisible, il n'y a qu'un juif qui comprend comment on traduit ça, en toutes leurs leur tzarot, l'autre tzar, il n'y a pas de tzar. Il y a toujours un tzar ou un César, mais il n'y a pas de vraiment. De Tzara. Mais nous lisons tout à fait autrement. Et donc il y a ici donc une tradition de lecture rabbinique qui réfute ce que cette brave dame hier soir avait dit. Nous lisons comme s'il y avait un vav. Bechol tzaratam lo tzar. En toutes leurs angoisses, c'est-à-dire de son peuple Israël, lo tzar, à lui, il y a de l'angoisse. Et il n'est pas nécessaire de cette stratégie magique que Dieu se fasse juif pour pouvoir souffrir. Et vous voyez quel est le problème. Bon, le verset en lui-même est important, mais vous avez à relier à Haggadah d'Itsrak, certainement à cause de la suite. Ou Malach, Panav, Oshia. Et l'ange qui vient de sa face, Malach, Panav, Oshia, les sauve. Ça, c'est la deuxième partie du sujet. Qu'est-ce qui s'est passé au moment du sacrifice d'Isaac, entre guillemets? Au moment où la tzara de l'épreuve allait risquer de devenir catastrophe, alors Malach Panav est intervenu et a dit « Ve'altaras l'omeuma » et a arrêté le risque. Est-ce que c'est bien clair? Vous voyez donc, il y a une problématique, enfin disons une perspective radicalement différente d'essence entre ce qu'il y a dans la Bible hébraïque concernant ce thème et ce qu'il y a dans la littérature évangélique, et c'est pourquoi... Je suppose qu'on aura à reprendre ça ce soir, puisque le Rav Dessler va intervenir, mais et c'est pourquoi j'ai tenu à distancier avec ce risque d'hypothèse que ce serait de mentalité hébraïque, effectivement, que l'épreuve aille jusqu'au crime. C'est bien clair. Alors, en tout cas, vous verrez les commentateurs, en particulier Rashi et Ben Ezra, sur ce verset de Isaïe 63. 63. Vous voyez que ici, le malach, c'est Michaël. Bon, donc il est probable, mais je n'ai pas vérifié dans les sources, que le malach de Haggadah d'Itsrak soit aussi Michaël. Alors c'est encore plus haut. Mais c'est la source de Michaël. Qui chez Mi Bekirbo.
À la Ritzpa.
Non, très bien, non, c'était ça que je cherchais. Non. Bien. Alors écoutez, reprenons donc l'analyse de l'identification de Bilham d'après ce ouvrage. Prends juste une minute que je vous mon livre. Voilà, nous sommes à propos du verset 5. Vayashkem Abraham Baboker Vayahavosh et Chavoro. Et je vous rappelle, le Midrash dit Amarav Shimon ben Yochai, Ahava Mekalkelet et Ashura. Ça, c'est le cas d'Abraham. L'empressement de l'amour qui le motive pour entreprendre ce que Dieu lui demande dans cette histoire fait bousculer la préséance. Mekalkelet et Ashura. C'est lui-même qui va s'occuper de sangler son âne. Alors que, comme le Midrash objecte, il a cependant énormément de serviteurs qui pourraient s'en occuper. Comment se fait-il que la dignité d'Abraham est mise en jeu jusque dans ce détail? Réponse, Ahava mekalkelet et Ashura. C'est le cas où c'est la... vous m'excusez, mais il fait tellement chaud. Où c'est l'amour qui suspend la politesse, si vous voulez. Bon, c'est ça. Alors que le deuxième cas, c'est celui de Bilham. Et là, la formule est « Sina mekalkelet et Ashura ». C'est la haine qui suspend la politesse. La préséance. De la même manière, nous avons un verset dans Bemidbar, chapitre 22, verset 21. « Vayakom Bilham baboker, vayahavosh et atono ». Première différence, pour Abraham, il dit « Vayashkem ». Alors que pour Bilham, il a dit Vayakom. Bon, mais finalement, ce n'est pas ça que nous allons étudier maintenant. Deuxième grande différence, c'est que pour Abraham, il a dit Et Hamoro, son âne au masculin, Hamor. Alors que pour Bilham, il a dit Aton, qui est l'ânesse. C'est-à-dire, c'est la même chose, Hamor et Aton, mais Hamor est vu dans une catégorie masculine et Aton est vu dans une catégorie féminine. Mais je vais revenir au détail de ce problème, qui est le premier problème d'exégèse par lequel on va commencer à étudier, mais je vais revenir d'abord à l'identification de Bilham. C'est-à-dire le problème général, vous vous rappelez, c'est qu'on s'attendrait à ce que le Midrash, et dans son habitude, laissez ouvert, s'il vous plaît, à ce que le Midrash oppose Bilham à Moïse, mais voilà qu'en fait, le Midrash oppose Bilham à Abraham. Nous avons déjà progressé dans l'analyse hier. Abraham, en tant que père d'une société particulière qui sera la nation d'Israël, alors que Moïse en est le maître. Ce n'est pas de prophète à prophète, si vous voulez, que Bilham est l'ennemi d'Israël, c'est dans une toute autre perspective. L'expression qu'emploie le Maharal est très précise. Il dit, je vais retrouver le texte, il dit, Abraham est le principe de Haya Rosh, les Ouma à Israélite. Et le vocabulaire qu'emploie le Maharal, qui est donc bien plus ancien que le temps moderne, aujourd'hui nous sommes habitués à employer cette expression, Ouma Israélite, la nation israélienne, la nation d'Israël. Mais le Maharal l'emploie pour dire que Israël, c'est premièrement Ouma, Ouma à Israélite. Ou que Shem Shaya Abraham Rosh, les Ouma à Israélite, et de même qu'Abraham était le principe, le point de départ, le commencement, la tête de la nation d'Israël, car Haya Bilham Rosh Leumot. Ainsi, Bilham est le principe des nations. Là, je voudrais reprendre l'analyse. Il ne s'agit pas du tout, si vous voulez, que Bilham fait partie des nations, de telle ou telle nation. Nous savons d'ailleurs que, originellement, il y a tout un problème entre Midian et Moab, mais dans toute cette histoire de Bilham et de Balak, mais originellement, il est la capacité de vocation prophétique de Midian, dans tous les cas. Mais c'est cette capacité de vocation prophétique de Midian qui est érigée à l'échelle universelle dans un conflit avec l'alliance à Abraham. Est-ce que c'est bien clair? Alors, nous étions arrivés hier matin sur le point suivant. Bien entendu, je crois qu'on peut dire, une fois de plus, j'y peux rien, c'est comme ça, que l'histoire nous montre comme illustration la plus évidente de ce conflit, la prétention du christianisme à remplacer Israël à ce niveau-là, qu'il n'y a plus une alliance spécifique
avec les descendants d'Abraham selon la chair, comme ils disent eux, mais qu'il y a une alliance universelle avec les descendants d'Abraham selon l'esprit. Vous voyez cette problématique de prétendre caduque l'identité en alliance avec le Créateur telle qu'elle est décrite dans le récit de la Torah des Hébreux à partir d'Abraham et la nation d'Abraham, et de lui substituer une prétention à l'universel dans l'annexion, l'assomption, comme ils disent, des valeurs d'Israël, mais au titre d'une alliance selon l'esprit. Est-ce que je me suis suffisamment clairement exprimé? Vous comprenez ce qui se passe là? Il n'y a pas de doute que dès que Bilam apparaît, alors apparaît cette prétention qui veut disputer le pacte particulier d'alliance avec l'identité d'Abraham, Ouma Israéli, veut disputer au nom des nations. Ce qu'il faut entendre dans cette expression « les nations », telle qu'emploie le Maharal ici, telle que l'emploie le Maharal, « Oumot », ce n'est pas simplement le fait que Bilam fait partie des Goïms, que c'est un Goï, que ce n'est pas un Juif, mais qu'il ait cette prétention de la capacité prophétique de l'ensemble des nations récapitulées comme instance universelle. Est-ce que c'est bien clair? Bon. Alors voyez donc, c'est pas seulement le christianisme. Là, nous avons l'illustration la plus la plus évidente du point de vue des événements historiques. Mais cela a été, en réalité plusieurs fois dans l'histoire que nous avons rencontré cette prétention de rivalité. Je crois que ici, je me réfère à une autre analyse, c'est un chapitre pour lui-même. Chaque fois qu'à tour de rôle de son rôle culturel, une nation à tour de rôle a repris en charge le rêve général de la reconstruction de l'universel, eh bien cette nation, qui se connaît comme messianique, devient rivale en particulier d'Israël. Et fonde dans cette rivalité à Israël une prétention à l'universel. Ça a été le cas de l'islam. Dans une toute autre manière que la chrétienté, il y a aussi le même propos de substituer un islam en arabe, ça veut dire la relation à Dieu telle que le musulman le comprend, la relation du croyant en termes d'islam, de substituer à l'échelle universelle ce qui avait été primordialement un pacte particulier avec une nation particulière, Israël. Et d'une autre manière que la chrétienté, je vais essayer de le formuler rapidement, c'est-à-dire d'une certaine manière, Bilam a un visage chrétien, mais Bilam a aussi un visage musulman. Bilam a un visage humaniste, Bilam a un visage socialiste, Bilam a le visage de la prétention à l'universel, s'opposant en rival en conflit avec Israël. Et Bilam a le visage nazi, et Bilam a le visage marxiste, enfin soviétique, et Bilam, chaque fois qu'une nation à tour de rôle se connaît comme de prétention messianique, et donc rencontre comme ennemi mortel, si j'ose dire, d'Afka Israël. Lorsque, à la génération précédente, ça a été le tour de l'Allemagne. En quel sens? C'est que, bien évidemment, cette prétention à l'hégémonie universelle était fixée sur un pan-germanisme de nature messianique, ténébreuse, satanique, mais de cet ordre. Et il y a quelques années, José Isenberg avait écrit, à propos, vous vous souvenez, il y a quelques années, il écrivait dans Le Monde...
d'ordre messianique.
Comment?
Des rivalités d'ordre messianique.
Voilà. Vous vous rappelez de cet article? Ça me revient. Il y a quelques années, Ken.
Oui.
Et il l'avait analysé par rapport à la Russie soviétique.
Oui.
Mais c'est
entre
vrai.
Israël et le monde soviétique.
Et le monde soviétique. Oui, c'est ça. Et puis, mais c'était vrai, ça a été vrai, chaque fois qu'une nation s'est connue comme le véhicule d'une tentative possible de reconstruction de l'universel, comme elle n'est qu'une manière d'être homme très particulière et donc très partiale. Vous vous rappelez de l'image du Zohar, de la défigure qui résulte de la brisure du miroir, vous vous rappelez de cela? Alors, son rêve de l'universel au niveau du rêve est authentique, mais elle ne dispose pas
du véhicule anthropologique pour le réaliser comme universalisme, et elle devient impérialisme, et il n'y a pas d'exception. Et à chaque fois, de façon précise, il y a ici une espèce d'entêtement de l'histoire qui est obligé de nous ouvrir les yeux. Et chaque fois qu'il y a la résurgence de cette prétention d'un universalisme militant, mystique, dans sa propre messianité satanique, alors tout de suite on dit l'ennemi c'est Israël. Regardez comme c'est frappant. Ça nous est arrivé avec l'Allemagne à la génération dernière. Mais ça nous arrive maintenant avec l'Iran et la révolution islamique. Ces jours-ci, la première chose qu'a fait cette espèce de pan-islamisme messianisant, c'est de dire « mon ennemi, c'est Israël ». Alors, pour faire bien, on ajoute l'Afrique du Sud. Mais c'est exactement comme à la télévision l'autre soir, vous vous rappelez de cette question qui arrive tout de suite. Bon, les Juifs, d'accord, mais pourquoi les Gitans? Alors, pourquoi les Africains du Sud aussi? C'est pour faire bien dans le tableau. Mais en réalité, vous comprenez ce que je veux dire. En réalité, tout de suite, on vise quoi? Qui? Israël. On met les Gitans avec, c'est pas grave. On les sauvera avec nous. Bien, alors, revenons donc à notre problème. C'est arrivé à tous les siècles. Pourquoi, effectivement, il faut comprendre ce Rosh Lahumot dans le style du Maharal de cette manière? Eh bien, nous avons vu l'exemple au temps de la sortie d'Égypte, l'exemple historique du temps de Bilam soi-même, au moment de la fin d'un exil, lorsque Israël rassemble ses membres en miettes pour en faire le Klal Israël. Vous savez qu'étymologiquement, diaspora, ça veut dire les débris. Et le vocabulaire contemporain doit à George Friedman. Vous savez qui est George, qui était, puisqu'il est mort, Zichrono Livracha, c'était un grand juif. Cette expression, lui, l'avait dit pour la sociologie en miettes. Oui. Hein? Le travail en miettes, Ken. Et alors ensuite, on lui a volé ça, sociologie en miettes, psychologie en miettes. Vers la fin de sa vie, il était très triste de cela, mais enfin, je lui dis, c'est pas grave, on ne pille que les riches. Ken. Mais ça lui avait fait du mal. Top. Et c'est ça, diaspora. C'est une entité mise en débris. Alors Israël rassemble ses débris, les juifs, et puis se constituant Ouma israélite, Bilam apparaît. Parce que apparaît précisément l'instance supranationale, je ne sais pas comment dire en termes politiques, historico-politiques, l'instance récapitulative de l'humanité dans ce problème, qui doit prendre acte que le temps est venu, mais elle suscite Bilam, propagande pour maudire, dire le mal d'eux, etc. Vous voyez où est le conflit? Encore une fois, ce n'est pas tellement Bilam en tant que prophète, ça, il va s'annexer la prophétie de Moïse. Okay? Mais Moïse, avec beaucoup d'ironie, nous montrera qu'il est capable de la prophétie de Bilam. Okay? Puisque la prophétie de Bilam, c'est dans le livre de Moïse. Mais en réalité, ce à quoi il s'oppose, c'est à la spécificité, disons, nationale, même entre 14 guillemets, mais nationale d'Israël. Voilà donc l'intention du Midrash ici, pour cette première analyse, de nous opposer Ahava mekalkele et Ashura, ça c'est Abraham. Sina mekalkele et Ashura, eh bien ça c'est Bilam. C'est bien. Bon, alors je vais un peu entrer dans le contenu du problème. Je vous demande juste 2 minutes que je recherche un verset. Et nous prenons en tout cas pour la Akedat Yitzhak le verset. Le verset 3, Bayashkem Avram Baboker Vaychavosh et Chamo, alors que nous allons prendre pour Bilam dans Bemidbar, une minute. Vayachavosh et Atono, c'est quel? Oui, chapitre 22, toujours, mais dans Bemidbar. dira quel passou.
Le chichi de la porte 21.
Oui, c'est ça, c'est le passou 21. Va y a combi là en bas pour qu'il va y a reboché tâtonneau. Bien. Ensuite, si nous avons le temps encore ce matin, nous comparons encore un deuxième verset. Ushnene arav imo pour Bilam et Ushnene aravito pour Abraham. Est-ce que c'est l'inverse ou c'est bien comme ça? Bon, il y a im et et. Ça, nous verrons. Après, rappelez-moi que ce soit dans le courant de la nuit. Alors, pour bien comprendre ce que le Maharal voulait nous enseigner dans la différence entre la vocation spirituelle d'Abraham et la manière dont la prétention Bilam va formuler, elle, cette vocation spirituelle, qui est très formellement analogue, vous voyez, le verset ressemble. « Vayashkem Abraham Baboker, Vayachavosh et Hamoro, Vayakom Bilam Baboker, Vayachavosh et Atono, Ushnene Aravito, Ushnene Araveimo. » Et je vais identifier maintenant, mais ça ressemble beaucoup, mais il y a une différence fondamentale. Le Maharal traite le problème de cette différence dans le problème classique et profond et élémentaire, mais fondamental, de la relation entre la vocation matérielle et la vocation spirituelle, ou si vous voulez, le problème de la relation entre le corps et l'esprit. Bilam prétend qu'il est complètement séparé de la matière, alors qu'en réalité, il va se dévoiler qu'il est en complaisance frauduleuse avec elle. Nous allons commencer par définir la position d'Abraham dans ce problème. Et c'est par rapport au verset 5. Vayomer Abraham el Nehara. Et Abraham dit à ses garçons, à ses jeunes gens, enfin à ses Neharim, Shevu lachem po imahamor. Restez quant à vous, lachem, pour vous, et ça vaut mieux pour vous, parce que vous ne pouvez pas plus, lachem. Un peu comme dans le Lech Lecha, le Tovatcha. Okay?